Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International, Radio Foot International, première édition, puisque nous nous retrouverons dans la soirée après les matchs de Ligue des Champions. Pour l'instant, nous allons évoquer Lille, Lille qui joue son va-tout ce soir face au FC Séville. Les champions de France sortants n'ont qu'un seul point et courent derrière une victoire européenne depuis très longtemps. Deux victoires seulement en 9 ans, c'est peu sur la scène européenne. Est-ce l'heure du rebond des dogs ? Le rebond attendu aussi au Camp Nou, où les Blaugrana recevront le Dynamo de Kiev. Le Barça a 0 point dans cette compétition, mais le nouveau numéro 10 catalan, Ansu Fati, pourrait sauver son équipe. Il est en grande forme. Une nouvelle victoire, je vous vois sourire Dominique, c'est vrai que oui, c'est une nouvelle histoire aussi dans la longue histoire du Paris Saint-Germain. Une nouvelle victoire hier soir, mais victoire dans la souffrance. Heureusement les Parisiens peuvent compter sur le meilleur d'entre eux, Kylian Mbappé, encore extraordinaire hier soir, vous êtes d'accord avec moi ?
Toujours d'accord avec vous.
Toujours d'accord avec
moi. Et moi je suis fidèle en plus Annie, contrairement à certains joueurs du PSG, donc... Je dis tout comme vous.
Merci Dominique Sévrac et bienvenue dans cette émission. En tout cas, nous, on a trouvé que ce PSG était sans âme et nous en parlerons. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tout va bien ?
Parfaitement bien.
Il est très beau.
Il était avec nous dans la deuxième édition jusqu'à minuit.
Pour les gens qui n'ont pas l'image, je peux témoigner d'un homme très très beau.
Ouais, moi aussi.
Bon, je demanderai pas à notre troisième invité de confirmer parce que je lui redis bonjour, il est de nouveau parmi nous et on l'attend toujours avec beaucoup d'impatience et nos auditeurs aussi apparemment sur la page Facebook. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes revenu, vous avez quitté le soleil sénégalais pour nous retrouver
pour
ici.
Pour la grisaille parisienne, hein, exactement.
Pour l'hiver, bon, il fait pas trop froid, ça c'est la petite chose qui va bien.
Exactement, deux petites dédicaces hein, à Pape Biran Botch, un grand frère, un ami, il est pédiatre à Dakar. Et Papis Ba de la radio communautaire de Kédougou.
Ils nous écoutent ?
Tout le temps.
Ah bon, bah alors c'est très
on
bien.
Les salue, On les salue.
On les salue.
C'est eux qui vous conseillent vos nouvelles lunettes parce que ça vous va très bien. Yo.
Merci.
Comme nous, on est dans une émission de bienveillance et de compliments. Vous avez le droit aussi, vous.
David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Allez, Yazici, oui! C'est lui, monsieur Europa League au LOSC cette saison! Et le LOSC frappe un gros coup!
Allez!
Oui, Youssouf Yazici! C'est lui! L'homme de l'exploit! Allez, vas-y!
Oh, bien joué!
Le ballon pour Yazici! Oui, incroyable! Yazici encore! Un coup du chapeau pour le Turc! Le LOSC écrit une page d'histoire, le LOSC a Zlatan et l'AC Milan!
C'était le dernier fait d'armes européen des Lillois. Mais ça remonte pas aux années folles quand même. Je vous rassure. C'était une victoire à Milan l'an dernier, oui, à peu près un an. Et c'était en Ligue Europa, mais c'était un match européen. La dernière victoire du LOSC en Ligue des Champions remonte, elle, à bien plus longtemps, au 20 novembre 2012. C'était en Biélorussie contre le Baté Borisov. Depuis, cette équipe n'a remporté aucun des 19 matchs disputés sur la scène européenne en Ligue des Champions. Cette saison, en tout cas, elle compte un seul point dans son groupe, gagné à Wolfsburg après un match nul 0-0, avant une défaite, elle, à Salzbourg. C'était sur le score de 2-1. À Lille, Cédric De Oliveira est déjà en place pour suivre cette équipe. Bonjour Cédric De Oliveira.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Cédric, il faut ce soir, on a l'impression pour les Lillois, à tout prix éviter le ridicule. C'est ce qui va les guider sans doute ce soir.
Oui, alors vous en avez parlé justement de cette série de matchs, cette série en cours, hein, c'est 19 matchs d'affilée, 19 matchs où le LOSC n'a pas gagné en Ligue des Champions. La dernière fois, vous l'avez dit, c'était face au Baté Borisov. Alors c'est dire si les Lillois ont du mal à briller sur le plan européen, même si on a entendu les prouesses de Yazici en Ligue Europa, c'était l'an dernier face au Milan AC. Alors ils ne font pas forcément de mauvais matchs. Les Lillois, on l'a vu face à Wolfsburg, ils ont plutôt dominé cette rencontre. Mais il a manqué de la précision tout simplement pour éviter ce 0-0. Et puis contre Salzbourg, il y a eu des erreurs en défense cette fois qui ont été déterminantes dans le résultat. Les deux pénaltys concédés par Sven Botman et Yilmaz, et ça a conduit Lille à s'incliner alors qu'il y avait là aussi moyen d'aller chercher mieux. C'est un petit peu à l'image de ce début de saison pour l'instant, le LOSC qui est une équipe très irrégulière, une équipe du ventre mou de la Ligue 1, 11e pour l'instant. Même si c'est vrai que c'est très serré, Lille est capable d'être brillant. On l'a vu face à Marseille juste avant la trêve internationale, mais aussi très décevant comme face à Clermont samedi avec une défaite 1-0. C'était un non-match. Alors quel visage vont montrer les Nordistes ce soir? Il faudra être très fort puisque en face, il y a Séville. C'est peut-être pas le Séville flamboyant qu'on a vu lors des dernières années, mais beaucoup plus une équipe qui a beaucoup plus de certitudes et qui reste favorite de ce groupe malgré deux matchs nuls pour l'instant.
Oui, on en attend beaucoup de cette équipe, mais Dominique, est-ce qu'on peut pas être un peu déçu de ces équipes françaises qui, Lille est quand même champion en titre, qui se battent pour les places européennes, et la France en a pas beaucoup, et puis qui, d'une année sur l'autre, eh bien, alors on parle pas du PSG parce que quand même ils vont assez loin, ils nous enthousiasment. On peut aussi penser à Lyon qui souvent va loin, mais par contre Lille, son bilan est absolument désespérant hein, oui. Sur la scène européenne.
Bah votre remarque est juste pour moi, Annie, parce que par exemple à Salzbourg, c'est les cadres qui ont trahi ce Lille-là, c'est Yilmaz notamment qui est passé complètement à côté de son match,
qui provoque un penalty.
Mais comme des jeunes un peu inexpérimentés, même si parfois on dit que l'expérience ça c'est un peigne pour les chauves, mais on a Yilmaz qui avait porté Lille au titre de champion. J'attendais autre chose que voilà ce que ce renoncement. Benjamin André avait été en grande difficulté également, donc voilà. Les joueurs sur lesquels Gourvennec se repose ou censé se reposer pour les tirer vers le haut, c'est eux qui abandonnent. Donc ce soir, moi, j'attends une réaction de ces champions-là, ces champions de France, ces grands champions. Voilà, parce que on sait toujours que les années après le titre, c'est compliqué. Par rapport à l'extrait à l'AC Milan, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus Galtier, il n'y a plus Maignan, il est passé dans l'autre camp. Donc ok, mais des équipes qui changent, des entraîneurs qui changent, ça arrive tout le temps. Mais ils nous doivent, entre guillemets, une revanche et une autre image. Ceux qui sont restés, ils doivent montrer qu'ils ont pas été champions par hasard. Parce qu'on va finir par croire que c'est pas eux qui ont été champions, que c'est Paris qui leur a donné, quoi.
C'est vrai qu'à l'intersaison, parfois, Lille a perdu beaucoup plus de joueurs. On peut penser à Pépé à un moment qui était parti. Et puis mais là, en l'occurrence, Yoro, c'est vrai que c'est Christophe Galtier, et on a l'impression que lui, parti, tout s'est écroulé. C'est quand même compliqué.
Je crois que l'année dernière, ils étaient en sur-régime. C'est la vraie valeur des joueurs de Lille, c'est ce qu'ils montrent cette année. Parce que l'année dernière, à un moment, ils étaient à un point du PSG. Ils se sont dit, on peut y croire en multipliant les efforts, en se disant que c'était possible. Et ils ont été en sur-régime toute la saison. Cette année, déjà, ils perdent Galtier, mais ils perdent au milieu Soumaré, qui était impressionnant.
Mais il commence bien, il remporte le trophée des champions face au Paris Saint-Germain.
Il commence bien, mais déjà, je pense que ce n'est plus le même joueur Yilmaz, parce qu'il a quoi, Bourak, il a un an de plus, il a 37 ans, donc ça va être très compliqué pour lui la saison prochaine et même pour les matchs à venir. Je pense que Benjamin André, c'était un bon joueur de Rennes qui a fait une excellente saison l'année dernière, mais là il rentre dans les rangs, il peut pas faire plus que ce qu'il faisait déjà à Rennes. C'est compliqué, ils étaient en sur-régime et là c'est le vrai niveau des joueurs de Lille, malheureusement.
Il y a d'autres joueurs aussi qui ont un peu disparu, il y a plein de Jonathan là, mais on pense à Jonathan David quand même qui marquait en plus à chaque fois quand il fallait. Renato Sanchez, on sait qu'il est souvent blessé, là il l'est encore. Liadji, là, cette espèce de transfert qui avait fait défrayer la chronique et qui est parti de Marseille et qui a disparu. Est-ce que c'est compréhensible? Il y a eu le changement, alors c'était pas l'intersaison, mais un changement de propriétaire, de direction et tout. Est-ce que c'est tout ça qui aboutit à cette situation selon vous, Nabil?
Oui, c'est un environnement globalement. Après, faut pas se mentir, faut mettre un peu les pieds dans le plat. Vous savez, les joueurs, pour beaucoup, avaient valorisé, entre guillemets, leur cote sur le marché la saison dernière grâce à ce titre de champion de France. Beaucoup voulaient partir, beaucoup ne l'ont pas dit en on, mais en off ça se savait. Bourak Yilmaz, il voulait partir, Yazice voulait partir, je pense notamment à l'autre turc à droite, Selik, qui est pas toujours très bon, il voulait partir, il aurait été prêt à partir. Mamba, il était à l'écoute d'une offre sans aucun souci. Donc c'est des joueurs qui se sont dit, de toute façon on pourra pas faire mieux, parce que ce qu'ils ont réalisé l'année dernière, surtout en cette séquence ou cette décade d'hégémonie du Paris Saint-Germain, seul Monaco l'a fait, et Montpellier quand oui, les Qataris ont...
C'était avant le début de l'aventure, on va dire.
Avant le début de l'ère. Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Ensuite, deuxième élément qui est extrêmement important, à mon sens, bah, je suis désolé, c'est pas Mourinho qui arrivait dans le vestiaire. Galtier, il est parti, ils ont vu arriver Gourvennec, pour certains. Ça a joué également sur leur motivation et les ambitions du club. Mmh. Je dis pas que Gourvennec est un mauvais entraîneur, mais quand vous entendez que...
Il s'attendait à, peut-être...
Voilà, quand vous
c'est
entendez...
pas un premier champ, en plus.
Voilà, quand vous entendez que Favre, Lucien Favre, a refusé de venir... Ranieri a refusé
Laurent Blanc
a refusé de venir. Bon, c'est pas quelque chose qui vous indique que c'est un club voilà qui reste
attractif.
Voilà ou bankable. Ensuite, il y a aussi certains joueurs dont vous avez cité. Pour moi quand Renato Sanchez est au niveau qui est le sien, il y a un Lille avec et sans Renato Sanchez parce que lui c'est un joueur de top classe mondiale, je crois qu'on est d'accord là-dessus, il y a pas de souci. Hey, Bourak Yılmaz, même si il a un peu failli la dernière fois, mais ça reste quand même un bilan très favorable. Là, en début de saison, il les a sauvés sur plusieurs situations. Donc,
mais ton premier point, Nabil, t'as oublié de dire que donc ils se voyaient ailleurs et qu'ils sont pas partis.
Ils sont pas partis.
Et donc ils ont le blues du mec qui est pas parti.
Ils ont le blues du mec qui est pas parti, mais sauf que, et c'est là qu'on va revenir au sujet, la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est le seul truc qui les tient, on va dire, qui est encore motivant pour eux. En championnat, vous verrez.
Ça peut s'arrêter ce soir.
Ouais. Hein. Non, mais ce soir, c'est un tournant. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire. C'est un autre débat. En championnat, il faudra s'attendre à des montagnes russes toute la saison.
Alors, ce soir, Cédric, ils vont se retrouver face au FC Séville. On va écouter Jocelyn Gourvennec, justement, l'entraîneur, le successeur, choisi, désigné, en tout cas, de Christophe Galtier. Il se montre prêt au défi de ces Sévillans qui ont une sacrée expérience européenne, même s'ils brillent souvent plus sur la scène de la Ligue Europa que de la Ligue des Champions.
C'est un mini-championnat, 6 matchs. À l'issue du match, on sera à mi-chemin. Il en restera 3 encore. Il faudra qu'on arrive à emballer ce match et à être conquérant, mais aussi en étant intelligent et à pas ouvrir le jeu face à des joueurs extrêmement habiles. Techniquement, Séville, c'est très fort. Bah, il faut qu'on fasse un match plein. On a une bonne référence récemment sur notre match de Marseille ici, y compris dans notre relation avec le public qu'on avait emmené dans une belle ambiance. Et ça booste forcément les joueurs. Et on doit retrouver ces sensations-là. On sait que le match, il se jouera à pas grand-chose parce que Séville, c'est fort. Mais on a notre mot à dire sur ce match-là.
Avoir son mot à dire, qu'est-ce que ça peut signifier pour ce soir? Parce que vraiment, ça passe ou ça casse ce soir, Cédric.
Oui, ça passe ou ça casse. Il faudra que Lille, juste... hausse son niveau de jeu, en tout cas plus que ce qu'il a montré en Ligue 1, parce que à Séville, ça reste une équipe qui est très très solide. Et ils ont montré encore ce week-end en championnat grâce à un but de Rafa Mir, c'était face au Celta Vigo. C'est pas une équipe, encore une fois, qui est aussi flamboyante que les saisons d'avant, mais c'est très très difficile de bouger cette équipe. C'est tout simplement la meilleure défense de la Liga. Après 8 journées, Séville n'a pris que 3 buts. Aujourd'hui, les Andalous sont deuxième à 3 points de la Real Sociedad avec un match en moins. Donc ça fonctionne, ça ne fait pas toujours aux supporters, mais en tout cas, Rulén Lopetegui, il a créé une équipe qui a un système, en tout cas qui est très très solide. Va falloir que Lille soit très innovant, notamment offensivement, parce que Séville est capable de courber les chines et d'attendre son heure et d'aller trouver l'ouverture en fin de match. Il y a beaucoup plus d'expérience dans cette équipe. Donc, en tout cas, c'est un sacré défi pour les Lillois.
Un sacré défi, Dominique.
Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que le meilleur match de Lille en Ligue des Champions, pardon, c'est contre Wolfsburg. Ça finit par 0-0 à domicile. Leur match d'ouverture, on s'attendait au fil du match.
Sur l'ensemble, des fois, la copie est pas forcément
mais
mauvaise.
C'est ça, en fait,
mais
Lille, en fait.
Mais ça manque de conclusion.
Je vais vous les résumer. Lille, leur dernière participation en Ligue des Champions, vous parliez d'une série infernale ils vous donnent toujours l'impression d'être si près. Et si loin. Vous pensez que ça va le faire, mais ça le fait jamais. Non, mais je les avais vus.
C'est le titre d'un film de Wim Wenders.
C'est une émission.
Si vous citez le Wim Wenders.
Merci, j'ai appris quelque chose grâce à vous. Non, mais c'est vrai, vous avez raison quand vous. Mais ils ont les qualités, ils peuvent le faire, ils ont les joueurs. Ce soir, s'ils se mettent en mode Ligue des Champions avec de l'abnégation, une organisation et des joueurs qui performent, parce que Ikoné, il peut jouer à Séville. Vous avez des joueurs, Benjamin André, il peut jouer à Séville. Je veux dire, c'est pas un ogre qu'ils accueillent ce soir, c'est une très bonne équipe. Mais très sincèrement, ce soir, Lille a toutes ses chances.
Mmh. Et puis ils seront, parce que c'est le match bascule, après tu vas à Séville. Donc en fait, ils vont savoir ce soir. Hein,
après,
parce que s'ils perdent, 0 points.
Ils ont déjà un point, s'ils gagnent aujourd'hui, c'est encore possible. Ouais.
Après ça peut être le Bourbier de Séville. C'est aussi une référence culturelle.
Excellent. Ça, je le connais.
Bon, je j'espère que vous n'êtes pas dans un bourbier, Cédric de Oliveira, et que ce soir, ça sera plutôt allègre du côté du stade Pierre-Mauroy.
On l'a douché,
il est dans le Bourbier.
Son enthousiasme.
C'est l'OSC le disparu, là.
Bon. À tout à l'heure.
Il y a un festival, là.
À tout à l'heure, Cédric de Oliveira, si vous nous entendez. Cédric? Non.
Bon, bah.
Il est plus là. Bon. Yoro, juste pour terminer, le FC Séville, ils ont quand même des arguments. Puis on pense à nous, Jules Koundé, ne serait-ce que ça, ou l'ancien Marseillais, Lucas Ocampos. On sent la rage de ces joueurs qui, eux, ne se résignent pas et qui ont peut-être ce supplément d'âme qui manque à Lille.
C'est une équipe qui est forgée pour jouer l'Europe depuis Unai Emery, Sampaoli, etc. Ils ont cette grinta naturelle qui fait de cette équipe sévillane, même si elle n'est pas brillante, arrive à accrocher de grandes équipes en Europe.
Et ils ont trouvé le bon entraîneur qui a un club à sa dimension.
Julian Lopetegui.
Lopetegui qui a été en difficulté avec le Real, mais qui a été en difficulté parce que le Real traversait une séquence compliquée. On se souvient que Solari n'avait pas fait beaucoup mieux. C'est un garçon qui a notamment travaillé avec toutes les catégories jeunes espagnoles, qui a travaillé à Porto. Donc c'est une équipe avec un vrai plan de jeu. Et puis un garçon aussi qui incarne un peu ce FC Séville. Vous parlez des prospects ou des joueurs recrutés en Ligue 1. C'est Navas, qui est un joueur...
Navas, dans les buts.
Jesús Navas. Ça en est un autre. Non mais Navas sur le côté droit qui est le capitaine de cette équipe, c'est aussi un joueur de haut niveau.
C'est un Navas qui est pas en alternance avec un autre joueur, lui. Il est quasiment toujours titulaire.
Non, celui-là il joue tout le temps.
Et il y a Monkey qui fait un excellent travail de prospection depuis qu'il est dans cette équipe.
Lui c'est un vrai bâtisseur, lui. Exactement. C'est un vrai
sur le long terme.
Souvent on parle des directeurs sportifs, il y a différents profils.
Il y a ceux qui achètent pour revendre plus cher.
Lui il revend quand même
sans dire de mal de personne. À Paris, quand c'est facile d'avoir Messi ou Neymar, quand vous avez des millions dépenser, c'est faut pas avoir beaucoup d'idées pour aller chercher Neymar, c'est bien, mais tout le monde peut l'avoir l'idée. Ce que fait Monchi, c'est autre chose.
Ouais, c'est un club qui a l'air insolide, ils ont été capables de refuser cet été 55 millions d'euros pour Jules Koundé. Manchester City avait réellement fait l'offre, donc c'est un club, à la différence de Lille, même si c'est des projets qui peuvent s'en ressembler en quelque sorte, qui est capable de garder ses meilleurs joueurs.
Voilà, on retrouvera Cédric de Oliveira et l'équipe du service des sports à partir de 19h temps universel pour le coup d'envoi de ce match, donc Lille-FC Séville. Nous, on continue et on va du côté de l'Espagne.
Gabi, Ansu Fati bien joué avec Memphis qui redonne ce ballon. Ansu Fati, quelle égalisation! Autre golazo et encore Ansu Fati pour sortir le Barça d'une mauvaise situation. Un but partout grâce à la pépite. Quel but!
C'est des rythmes que vous connaissez mieux, ça. Hein.
Exactement.
Yoro. En tout cas, du côté de Barcelone, il porte désormais le numéro emblématique, numéro 10 donc, du FC de Barcelone, de cette équipe qui a vu son autre éternel numéro 10 partir. Mais là, il a un remplaçant et le voilà revenu dans l'effectif après des mois de blessures. Le jeune Ansu Fati a même déjà débloqué la situation en championnat dès son retour. C'était face à Valence et sans doute, le club et les supporters comptent bien sur lui ce soir pour débloquer le compteur en Ligue des Champions. Parce que dans ce groupe, Yoro, c'est absolument incroyable. Quand on regarde, on se dit, est-ce qu'on a bien lu? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Non, le FC Barcelone a 0 points. Et quand on se souvient, c'était 2 défaites. Ils ont encaissé 6 buts, 3 du Bayern Munich sur leur pelouse au Camp Nou. Et ensuite, ils sont allés au Benfica. Pareil, ils se sont écroulés. C'est le tarif, 3-0. Est-ce qu'il faut tout miser sur Ansu Fati ce soir pour Ronald Koeman?
Est-ce qu'il peut réveiller cette bête qui dort depuis le départ de Léo Messi? Je ne sais pas. Mais après, il y a
peut-être
plus
même un peu avant, parce qu'avec le Bayern Munich, ils ont l'habitude de se prendre des vestes.
De toute façon, je pense que l'équipe est meilleure avec Ansu Fati parce qu'il y a plus de jeu, il y a plus d'allant. On commence à retrouver Coutinho, Memphis se débrouille pas mal. Mais bon, regardez ce que le Barça a perdu quand même quand on perd Messi, quand on perd Busquets. Presque, il joue, Busquets, mais c'est plus le même joueur.
Même Rakitic, si on le voit exceller quand il joue avec l'Espagne.
Avec la nation.
Oui, parce que c'est une équipe structurée, l'Espagne.
C'est ça, exactement. C'est ça la différence entre... Et je pense aussi, ils ont perdu en termes déjà d'entraîneur. Je pense que Ronald Koeman, quoi qu'on dise, comparé aux anciens, que ce soit Enrique, que ce soit Guardiola... C'est un degré moins fort, mais je ne sais pas. Ansu Fati, en tout cas, les trois derniers numéros 10 du FC Barcelone ont tous été Ballon d'Or. Messi, Ronaldinho, Rivaldo. Mais on verra si lui, il sera Ballon d'Or. Voilà.
Alors peut-être, parce qu'il a un bel avenir.
Pas cette année,
peut-être,
hein. Pas cette année, mais après, oui.
Mais on a l'impression, justement, Dominique, c'est vrai que... c'est vous qui avez récupéré Messi. Mais...
Alors moi, non, mais disons, la capitale française.
Mais en tout cas, le FC Barcelone est en train de lancer comme ça le produit, le personnage et le numéro 10 Ansu Fati.
Oui, parce que à la fois d'un point de vue footballistique, marketing et pour faire rêver les foules, vous avez toujours besoin
d'un produit
de faire croire à quelque chose, de faire croire à un futur possible, un futur qui peut être aussi un immédiat. Et donc voilà, on a envie de croire. En plus, comme c'est un joueur merveilleux, comme c'est un joueur qui a une vision du jeu différente, qui est déjà au-dessus à son âge. Même si malheureusement il est trop souvent blessé, rattrapé par les pépins. Mais voilà, quand il est là, c'est fantastique. Barcelone a besoin d'un playmaker, d'un garçon qui fait jouer les autres. On a beaucoup de sympathie. Yoran en a parlé pour Memphis ou les autres, mais c'est pas lui qui va faire du jeu. Donc Ansu Fati, à mon avis, il est là pour déclencher et pour finir aussi éventuellement. Donc oui, il y a une part de rêve, une part de marketing, tout se mélange. Mais c'est aussi ça maintenant, les grandes franchises de football, elles sont là aussi pour mélanger un peu
franchise.
Bah oui, c'est comme ça qu'ils disent. À Paris, on dit.
Moi, je disais un club, mais bah oui, Dominique nous dit franchise.
Bah parce qu'ils se comparent désormais au club de basket, au club de NFL, ouais. Tout ça. Donc ils se disent franchise de sport. Mm-hmm. Le monde a bien changé, vous savez.
Oui, malheureusement.
Et moi, je subis tout ça.
Est-ce qu'ils sont dans une meilleure passe quand même? Parce qu'ils reçoivent le Dynamo Kiev, c'est pas non plus le Bayern, c'est pas celui qui est censé être numéro un du groupe.
Ouais, c'était pas prévu qu'ils en prennent 3 Benfica non plus. Hein.
Non, justement, hein, ils sont
en plus de tout. Hein.
Ce soir,
c'est une équipe qui est convalescente, qui repousse les limites.
Mais est-ce que ce soir ils peuvent s'en sortir? Parce que s'ils perdent ce soir, l'aventure.
Oui,
c'est
comme dit, hein. Ils peuvent s'en sortir, mais le Dynamo de Kiev
ils ont zéro, ils ont même pas un point.
Le Dynamo Kiev doit se dire que sur les 10 ou 15 dernières années, s'ils ont une chance de gagner face à Barcelone, c'est cette saison. Quoi. Oui. Enfin...
Et on voit comment ces petites équipes, hein, on pense à Sheriff Tiraspol l'autre fois, au Real et tout, tout d'un coup arrivent ultra motivés pour ce genre d'expérience.
Oui, parce qu'en plus, c'est mondialement connu que le Barcelone est dans une passe très difficile.
Ah, c'est une passe difficile. Après, c'est une équipe qui a toujours des ingrédients, des joueurs spectaculaires. Mais en fait, malheureusement, ça dépasse le football, enfin le terrain aujourd'hui au FC Barcelone. Donc voilà. Après, Ansu Fati, oui, c'est une source, une source d'espoir. Mais il y a une différence entre être adoubé par Messi et être là autour de Messi et de participer à la fête et de porter une équipe malade pour un jeune joueur, quoi. Je pense qu'il faut un peu tempérer. Là, il faut le laisser surtout lui continuer à grandir et pas lui faire porter la responsabilité d'une séquence compliquée du club.
Déjà lui avoir octroyé le numéro 10, on peut se dire c'est lourd à porter. Alors comme il est jeune et prometteur, peut-être que lui ne s'en formalise pas autant. Mais
j'ai peur qu'il nous fasse une carrière à la Jordi Cruyff. Quand le Barça était en phase de transition il y a une vingtaine d'années, c'était pareil. Ils ont dit Jordi parce qu'ils avaient perdu Stoichkov, Romario, etc. Mais malheureusement, on a vu ce qu'est devenu Jordi Cruyff. Il devait porter le Barça.
Il est toujours dans le club, mais pas au même.
Alors, ça serait qui, là? Ça serait un sous-Messi? Il aurait le nom d'un génie, mais il serait sans être le génie, quoi.
Exactement.
Non, mais normalement, sur le papier, si vous trouvez un bon équilibre, Barcelone doit battre Kiev. Potentiellement, ça peut être 8e, quart de finaliste, au grand max.
Oui.
Mais on est aussi parti pour encore une fois repousser les limites, pas du ridicule, mais en tout cas voire de la crise. Ils sont capables de se faire éliminer sur un premier tour.
On a le sentiment que Koeman n'est pas limogé parce qu'il n'y a pas les indemnités pour le payer. Ouais. Ça coûterait.
Je crois que c'est plus qu'un sentiment. Je crois que c'est la réalité.
Et donc, ce qui
on
fait
parle
que
12 millions d'euros.
Voilà, ce qui fait que la crise s'enlise en fait parce qu'il faudrait.
Ou alors on lui donne du temps.
Je trouve que l'année dernière avec Griezmann et Messi qui n'étaient pas des joueurs déclinants. Il a pas montré grand chose. Il a gagné la Coupe du Roi, certes. Messi a fini meilleur buteur.
Il a été comme jusqu'au bout dans la lutte dans un championnat qui est vrai en Brest. Il a été retrouvé un certain équilibre avec un 3-5-2. Mais après, pour
le
moi,
4-1, le 4-1 ouais. Ah, Messi, au Camp Nou avec du PSG.
Oui, c'était gênant. Mais au retour, ils avaient été très bons. Non, mais là où c'est pipé pour Coman, au-delà du football, c'est qu'il a pas été choisi par le président. Donc c'est pas un binôme qui fonctionne ensemble.
Mais il a
l'a bien vu.
Donc voilà, ça lui permettra de tenir encore un petit peu.
Je trouve que même je souffre pour lui des fois quand je le vois à la télé sur le banc.
Surtout qu'il se débrouillait plutôt bien avec la sélection.
Oui, moi j'avais Benfica à Barcelone la dernière fois. On sent quelqu'un qui comprend pas ce qui lui arrive. Quoi.
Après, tant qu'il est en poste, il peut toujours.
Ça arrive à pas mal d'entraîneurs, je crois.
Tant qu'il est en poste, il peut toujours redresser la barre.
Oui, je veux dire, voilà, il aura du temps.
Si je dis n'importe quoi, s'il enchaîne une séquence de 5 matchs avec un jeu, un contenu intéressant et des résultats positifs.
Et puis Ansu Fati, comment vous voulez le sortir derrière puis, tout pourrait aller mieux.
Par contre,
et Coutinho qui se réveille.
On a pensé ça en début de saison, Nabil. On a pensé ça en début de saison parce qu'il y avait quelques résultats en championnat, notamment avec Memphis qui était sympa. Et t'es arrivé avec des champions et le double.
T'as raison, c'est gênant pour eux.
Trêve internationale, oui.
Mais bon, on a le sentiment qu'il n'est pas responsable de tout, surtout.
Non. Autre match où la pression sera sur toute l'équipe, et là, c'est au Théâtre des Rêves. Remettre les choses dans l'ordre au Théâtre des Rêves.
New Order.
Avec New Order. Ah ouais, David Gélit.
J'ai l'impression que c'est le Manchester est de retour. Et oui, c'est la musique de Manchester, c'est la Hacienda, c'est les. C'est
on n'a pas mis Oasis quand même.
C'est avant avec les Smiths et tout ça.
C'était bien magnifique. Avant. Alors Manchester United, ou comment redresser la barre sur la scène européenne? Cette équipe emmenée par, allez, au moins on va citer Paul Pogba et Fernandes en milieu de terrain, reçoit ce soir l'Atalanta Bergame après une défaite un peu cuisante en championnat. C'était à Leicester sur le score de 4-2. Et Solskjaer, Ole Gunnar, comptera sur un de ses buteurs prometteurs, mais qui n'était pas en grande forme ces derniers temps. Et il sera titularisé a priori ce soir pour la première fois de la saison. C'est Marcus Rashford.
Ces deux dernières années, j'ai été loin de ce que je peux faire habituellement. Je ne dis pas que je ne joue pas bien. J'ai fait de bonnes choses, mais je sais que je peux apporter plus à l'équipe. C'est la première fois dans ma carrière où je sens que je peux vraiment aller de l'avant et être enfin le joueur que je suis capable d'être. Je veux réaliser ça avec Manchester United. Je veux qu'on franchisse une étape supplémentaire tous ensemble.
C'est vrai que Rashford, depuis l'Euro, on l'avait vu marcher sur une jambe et il n'avait pas été très performant. Là, ça serait sa première titularisation. Nabil, c'est un joueur qui peut changer tellement de choses dans une équipe.
C'est un joueur fantastique. Pour moi, c'est potentiellement l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, percussion, vitesse.
Mais il fait un peu de l'autoflagellation quand il dit « ça fait 2 ans que je ne suis pas tellement au niveau ». Il exagère un peu, peut-être.
Il a raison peut-être d'être exigeant avec lui-même. Si vous estimez que, alors même si c'est pas le talent d'Mbappé et tout, mais en Angleterre, à un moment, il était quand même considéré pas loin. Donc, quand on voit ce que fait Mbappé et ce que fait lui, alors qu'il a des qualités aussi très importantes, bon, je peux comprendre qu'il soit déçu. Ensuite, moi, je trouve qu'il n'est pas aidé. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que à Manchester United, on empile les joueurs du même profil devant. Alors, même si c'est pas exactement, c'est un gaucher, il y a Greenwood. Ils ont pris Sancho à Dortmund.
On voit pas beaucoup.
Il y a Martial, il y a Cristiano Ronaldo, il y a beaucoup.
Il y a embouteillage.
C'est-à-dire qu'en gros, si ici Mbappé nous dit on construit pas autour de moi, bon c'est Messi qu'on lui ramène quoi. Non mais entre guillemets quoi. Rashford, est-ce que le recrutement de Sancho était indispensable pour Manchester United? Si tu veux construire autour de lui, si tu estimes qu'il incarne ton club, c'est aussi le fait que je trouve que la réflexion sur la politique sportive. Du côté de Manchester United, moi, elle m'interpelle.
Ce qui va dans ton sens, c'est des déclarations surprenantes de Solskjaer ce week-end qui dit que Rashford doit se concentrer sur le football désormais, sous-entendu que ses opérations caritatives, c'est que ses opérations
extrêmement utiles,
à visage humain, qui au moins
vers les enfants pauvres d'Angleterre,
font la noblesse des footballeurs parfois, parce que ça montre qu'ils n'ont pas qu'une préoccupation, les belles montres, les belles voitures, les endroits peu toc et voilà. Je trouve cette déclaration surprenante. Elle me fait dire que Solskjaer est un entraîneur en difficulté, qui sait plus quoi dire, au moins d'un point de vue de la com, et qui lui aussi joue très très gros. Et là, pour le coup, Manchester United, ils ont un peu plus d'argent pour payer les indemnités. Donc, il ferait mieux de faire attention parce que Annie, pour tout vous dire, je comprends pas depuis qu'il a été nommé entraîneur le ratio entre ce que je vois et ce qu'il est. C'est pour moi un déficit incroyable. Je comprends pas qu'ils soient encore là après tout ce que j'ai vu de lait avec lui à sa tête.
Salim nous expliquait lundi qu'il a toujours la cote parce qu'il a été une légende à un moment de l'équipe.
Ça marche 3 semaines, ça.
Et ben, il a toujours la cote avec les propriétaires.
Il y a des gens qui n'aimaient plus Lucien Hernandez au parc. Non,
vous, avez,
parce que...
vous avez qu'à voir. Liverpool, ils ont Klopp. C'est dans le même gabarit. Klopp, vous voyez exactement ce qu'il veut faire. Chelsea, ils ont Tuchel. Champion d'Europe, on voit exactement ce qu'ils veulent faire. Manchester City, Guardiola, no comment, on voit exactement ce qu'il veut faire. Est-ce que ici, quelqu'un autour de la table peut m'expliquer quel est le plan de jeu de Solskjaer à Manchester United? Il balance des compos de temps en temps. Débrouillez-vous.
Et il empile les joueurs, parce que depuis qu'il est là, quand même, ils ont dépensé énormément en somme pour les transferts des joueurs. Mais on dit tout le temps, oui, la saison prochaine, la menace va prendre, etc. Mais ça prend jamais. Déjà qu'il fait tourner les joueurs au milieu, des fois c'est Pogba en sentinelle, des fois il est sur le côté gauche, des fois sur le côté droit, des fois c'est le Portugais qui va jouer meneur, des fois il est excentré, des fois c'est le Brésilien, il va jouer 6, etc. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire de cette équipe.
Le seul truc qu'il avait trouvé à peu près de correct, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'était sa courroie de transmission un peu prêt à aller au charbon, c'était McTominay Fred. Ça, c'est le seul truc que je peux lui concéder.
Mais Fred, il a disparu.
Pour
il
trouver joue, un équilibre, la moins. Saison dernière, pour trouver un équilibre d'équipe. Pour le reste, devant, ils sont interchangeables, on comprend pas ce qu'il fait. Et là, il y a Cristiano.
Je lui conseille quand même de pas enlever Cristiano quand même.
S'il fait ça, je peux te dire, il est mort dans le film. Voilà.
Ouais, parce que Cristiano, il était pas très content en sortant du match de Leicester. Ça sera donc ce soir aussi, et ça sera sur la pelouse de Manchester, face à la Talanta Bergame. On va revenir sur un match hier soir, Dominique, ça vous dit?
Avec plaisir.
Il n'a pas sifflé.
Là, il y a un bon contre. Donne-lui. Vas-y, Kylian.
Avec Draxler pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en contre. Kylian Mbappé. Encore. Kylian Mbappé qui va les défier. Oui. Qui sert de sortir. Kylian Mbappé, ce jeune homme, marche sur l'eau. Quatrième match consécutif où il est buteur. Vous avez bien le bonjour, mesdames, messieurs, du génie français Kylian Mbappé.
Le PSG et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a illuminé le Parc des Princes hier soir. Le champion du monde français disparaît. Parfois, lorsqu'on parle des stars du PSG, tout d'un coup, on va parler de Messi, on va parler de Neymar, les stars étrangères. Mais c'est pourtant bien lui, Kylian, qui réussit à emmener son équipe vers la victoire ces derniers temps. C'est lui aussi qui fait des passes décisives et maintenant qui recommence à marquer. Même si il analyse qu'avec honnêteté, on va l'entendre, le jeu de son équipe dans son ensemble et notamment ce qu'il appelle les temps faibles.
C'était un match difficile en Champions League, tous les matchs ils sont difficiles. La Ligue des Champions c'est difficile, c'est les meilleures équipes du monde. Leipzig c'est une bonne équipe, nous on était à domicile, on voulait gagner. On l'a fait, on a eu des séquences de jeu où on était installé dans leur camp, où on a réussi à vraiment bien combiner, à être dangereux et à les mettre en difficulté. Après il y a des périodes dans le match, je pense que c'est la gestion des temps faibles. Les gestions des temps faibles, peut-être qu'on a eu des temps faibles qui étaient un peu trop faibles, mais je pense pas que c'était de la chance aujourd'hui.
Alors sûrement les temps faibles collectivement, mais Dominique, lui, il a jamais de temps faible, ce Kylian.
En fait, vous avez dit le PSG, mais vous êtes trompé. C'est le KMB, c'est Kylian Mbappé contre Leipzig, contre Angers, contre tout le monde en fait. S'il est pas là pour faire les passes décisives ou les buts, il se passe absolument rien. Hier, il marque, il donne, il provoque le penalty, il donne à Messi un but.
Bon, il rate la penalty.
Oui, bon, voilà,
sans conséquence.
Ça, c'était un plan additionnel.
Heureusement.
Il ne m'a jamais paru aussi fort, mais je l'attribue au fait que sa progression, elle est constante et elle est sans limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, Annie, le 19, 20 octobre, 21 octobre, je ne sais pas.
20 octobre,
on ne peut pas dire où il va s'arrêter, c'est impossible. C'est fulgurant, c'est permanent, c'est incroyable. Je pense que c'est pas dû à l'entraîneur. Je pense que cette progression, il l'aurait quoi qu'il arrive avec n'importe qui, à part un entraîneur qui le briderait, peut-être Mourinho. Mais c'est pas forcément dû à Tuchel ou à Pochettino. C'est lui qui est en train à chaque fois de mettre la barre un peu plus haut. Et ce qu'il ne réussit pas aujourd'hui, vous verrez qu'il va le réussir demain. Vous verrez que les pénaltys, il va finir par quasiment ne plus les rater. À
le jeu de tête.
Je suis pas sûr qu'il l'améliore parce que je crois qu'il a pas envie de l'améliorer. Vous savez, il y a beaucoup d'études qui paraissent sur le fait qu'on peut devenir un peu foufou. Mm-hmm. Et je pense que sa famille lui a mis le main en garde là-dessus. Donc il a mis des buts comme ça à Reims ou en championnat, il a mis des buts comme ça de la tête, mais vous en verrez pas 50 de sa part, ça sera, il n'aura pas Karim Benzema.
En tout cas, justement, on a l'impression, et c'est peut-être le plus rassurant, c'est que Kylian Mbappé, finalement, là où il parle, c'est avec ses pieds, c'est sur la pelouse, c'est sportivement. Après, sur le marketing, quand on parle des chaussures de l'un,
des montres de l'autre,
voire du côté star système qu'institue la franchise PSG avec Neymar ou avec Messi. En fait, Kylian Mbappé, on a l'impression qu'il perd pas de vue quand
même. Parenthèse, Annie, mais... son interview à l'équipe juste avant la trêve internationale était géniale. Quand il parle, c'est génial.
Mmh. Oui. Ah non, mais c'est pas du tout contre ça, mais on a l'impression que lui, en tout cas, il perd pas son objectif. Il a 22 ans, hein. Il a peut-être d'autres objectifs.
C'est un garçon mature et moi, je
mature depuis qu'il a 18 ans, bah, je crois. On lui dit tout le temps ça.
Je bois même ses paroles quand il parle, Kylian Mbappé. Il a toujours dit qu'il a un objectif. Et rien ne peut détourner ce bonhomme de son objectif. Et je vous dis, Annie, il peut devenir meilleur quand il aura des joueurs meilleurs pour lui. Parce qu'aujourd'hui, hier, entre 25 et 30 minutes de jeu, il était déjà à 4 km de couru. Pourquoi ? Parce qu'il fait des replis défensifs. Aujourd'hui, ce que le PSG ne sait pas faire, c'est défendre avec le ballon. Ils ont des joueurs pour défendre, couper des courroies de transmission, courir ça et là. Gueye le fait bien, Herrera le fait bien. Mais quand il faut défendre avec le ballon pour que ces joueurs de devant puissent souffler,
et son meilleure valeur.
Ça, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, s'ils récupèrent le ballon, ils disent ah ben, Kylian, tu viens de nous faire 60 mètres là, repose-toi, on va faire tourner le ballon 2 à 3 minutes avant qu'on te retouche. Mais ils sont tout le temps obligés de retoucher Kylian parce qu'il faut qu'il y aille. Il n'y a personne pour garder le ballon. Et ça, c'est le vrai problème du Paris Saint-Germain. Ils vont taper sur Pochettino, sur Tourelle, etc. Mais au milieu, ils ne savent pas défendre avec le ballon. Et dans le football moderne, pour aller de loin, il faut savoir défendre avec le ballon.
C'est aussi l'entraîneur de leur apprendre ça.
Oui, mais hier, Il y a une image à la 42e minute. Messi qui sollicite en 1-2 avec Herrera. Herrera échoue. Et il se tourne le dos, il regarde le ciel. Mais qu'est-ce que j'ai dans mon équipe? Je ne peux pas faire ça. Parce que lui, il a l'habitude de jouer avec Xavi, Iniesta, Deco, Ronaldinho, Rakitic. C'est des joueurs de ballon. Même quand il se replie.
Mais Verratti, il joue au foot.
Mais c'est le seul. D'ailleurs, à chaque fois que le PSG a encaissé un but, c'est parce qu'il est seul, il veut tout faire. Moi, je suis entraîneur d'une équipe adverse, je dis, écoutez, mettez deux joueurs sur Verratti, il va essayer de sortir le ballon 10 fois, sur 8, il va passer. Les deux, vous allez contrer et vous allez marquer. En championnat, face à Angers, il perd le ballon, il y a but. Hier, il perd le ballon, il y a but. Parce qu'il est le seul. Il va jouer avec qui? Il va jouer avec Gueye. Gueye, il est bon dans un autre domaine. Herrera est bon dans un autre domaine. Mais comment essayer de sortir le ballon et de garder cette balle pendant 2-3 minutes.
Tu soulignes un des problèmes du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'équipe type, notamment au milieu.
Exactement.
On pensait Wijnaldum, qui venait de Liverpool libre, allait pouvoir s'imposer. Pour l'instant, c'est un fiasco, mais on est en octobre, donc peut-être qu'en mars, c'est peut-être lui qui fera la décision. Paredes, que moi, j'aime pas beaucoup, mais qui est très apprécié dans le vestiaire, notamment par Messi. Et voilà, il peut apporter quelque chose de différent.
Ouais,
il y a Danilo Pereira qui a été utilisé en défense centrale, peut rendre quelques services. Voilà, on a peut-être pas tout vu encore. Ce PSG n'a pas tout montré encore de ce qu'il a. Et même, il a pas montré grand-chose.
Oh, ouais. Nabil, est-ce que vous êtes d'accord quand on dirait, alors, et en plus en écoutant nos deux camarades, que finalement, le PSG, il manque d'âme d'une certaine façon?
C'est sûr qu'il y a pas de projet de jeu, il y a pas d'état d'esprit. On ressent pas un bloc équipe. Voilà, on utilise souvent ce terme de bloc équipe.
Moi,
j'ai pas ce sentiment là. On a l'impression d'une équipe non pas déséquilibrée de manière assumée, mais parfois d'une équipe désarticulée. Parce que chacun, il y a pas un travail qui est tactique qui est vraiment mis en place. C'est pas des joueurs les courses ne sont pas coordonnées entre les joueurs. Hier, Nuno Mendes à gauche, il a pris un four parce que il débarque dans un collectif. On lui dit tu te mets là, t'es latéral gauche et puis tu t'occupes du couloir, basta. Mais en vérité, s'il y a ce que vous faites et ce qu'il y a ceux qui font autour de vous, c'est vrai qu'on a l'impression que ça manque de travail à ce niveau-là. Alors quand un garçon comme Gueye hier n'a pas été mauvais, hier Gueye il a été normal. C'est-à-dire que quand un garçon comme Gueye il est normal ou d'autres au milieu de terrain sont à un niveau 5 et demi sur 10, vous êtes démasqué. En revanche, quand Gueye ou Herrera ou n'importe quel autre milieu fait un top match, ça masque la misère. Et donc on dit super match du Paris Saint-Germain, Les talents devant ont fait la différence. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de minimum garanti
oui,
avec
ces équipes. Oui, mais comme l'a dit Yoro, le projet de jeu, c'est souvent donner le ballon à Kylian et puis après, débrouille-toi, quoi.
C'est-à-dire que le seul Neymar, c'est à Kylian et Neymar.
Avant, et Tourelle, c'était donner le ballon à Neymar et on verra ce qui se passera. Et maintenant, c'est dès que vous pouvez lancer dans la profondeur, Mbappé, allez-y. Mais sauf que il y aura des matchs, on l'a vu contre City, non, où la profondeur, t'en as pas. Le ballon, tu l'as jamais. Ils sont sortis.
Mais ils ont gagné quand même.
Ils sont sortis parce que là où on revient à ton raisonnement, ouais. Gay avait été énorme contre City. Verratti avait été énorme.
Exactement. Mais tu penses qu'ils peuvent l'être à chaque fois à haute altitude?
Non.
Le jour où ils le sont pas, c'est soit la baraka et soit la baraka.
L'entraîneur de Leipzig, il a regardé le match contre City, il a vu qu'il fallait aller sur Verratti puis voilà.
Exactement.
Leipzig a été très fort hier, même surprenamment, hein, parce qu'on les avait, on sait qu'en Bundesliga
après,
Annie, c'est compliqué.
Ça pose la question quand même. Moi, je suis désolé. Ça pose, on en reparlera certainement dans la saison, mais ça pose quand même l'entraîneur, la question de l'entraîneur, parce que moi, je veux bien qu'on lui laisse du temps.
Ou des entraîneurs, voilà. Peut-être, parce que
on
c'est
a l'impression.
Même...
Nabil a raison. C'est la thématique qu'on a choisie demain dans le Parisien. Ça s'appelle Pochettino, l'heure des premiers doutes. Et Nabil a raison. On ne voit rien depuis trois jours.
Ce qu'on lit depuis hier, culture... c'est en 10 mois, on n'a pas vu grande progression.
On verra rien.
La culture de l'excuse, ça suffit.
On verra rien.
C'est un spoiler, alors on connaît déjà la suite.
Parce que, on l'a dit avec Tourelle, on l'a dit avec Emery, parce que le problème au PSG, ce n'est pas l'entraîneur qui choisit ses joueurs. Tant que ce n'est pas lui
quand
qui choisit. Quand tu
ramènes Messi, ça va. Mais quand tu chiales pas.
Mais,
quoi.
Mais Messi, Verratti, Donnarumma, Navas, Hakimi, Nuno Mendes, Ramos, Mbappé, Di Maria, tous ceux qui étaient là avant Neymar. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui. Je crois qu'à Leipzig, ils aimeraient en avoir 2-3. Hein. Oui. Tu leur dis, on vous donne Drexler et Di Maria, ils disent pas non. Hein.
Mais Drexler, ils courent jamais.
Non, mais on lui demande de former une équipe.
Bon, ben on verra ça dans Le Parisien demain, les amis, il faut le lire. Et surtout, on en reparlera dans Radio Foot International. Un procès s'est ouvert ce matin à Versailles, pas très loin de Paris, et qui concerne notamment deux joueurs de football qui se retrouvent face à face. L'affaire de cette vidéo intime où Mathieu Valbuena était victime de chantage et où Karim Benzema est accusé de complicité de chantage et donc devant les juges après des mois et des mois d'enquête, puisque l'histoire, hein, si je ne me trompe pas, date de 2015.
Oui.
L'ancien Marseillais s'est présenté ce matin au tribunal. Écoutons Mathieu Valbuena.
Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, presque. C'est-à-dire qu'il manque Karim. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout et ça fait 6 ans qu'on attend cette affaire. Que ça soit derrière moi. Et on est là jusqu'à le temps qu'il faut pour finir que tout cela soit derrière moi.
Et oui, il le regrette, Mathieu Valbuena, le joueur du Real Madrid n'est pas là, mais il a marqué hier avec son équipe,
oui,
c'était à Donetsk.
Il joue en Ukraine quand même.
Voilà, et il ne s'est pas donc présenté, mais ses avocats sont là. Et il n'était pas obligé en plus de se présenter. En tout cas, il est en pleine rédemption sur le plan sportif. Parmi les supporters, j'aurais deux interrogations. Est-ce que ça peut nuire à Karim Benzema pour ce qui est un peu de sa rédemption? Et on l'a vu avec l'équipe de France, en Ligue des Champions, à l'Euro, tout ça. Mais surtout, d'abord, parlons de Mathieu Valbuena. C'est lui qui avait perdu le plus dans cette affaire, selon vous, Dominique. C'est l'impression qu'on a, et c'est ce qu'on sent un petit peu dans ce côté, je dirais pas revanchard, mais en tout cas vouloir que la justice éclaircisse tout ça du côté de Mathieu Valbuena.
C'est arrivé quand il était joueur de Lyon. Et donc Lyon, c'est la ville de Karim Benzema. Il est né à Bron, dans la banlieue de Lyon. Donc déjà, c'était le pire endroit pour lui. Et après, c'est un joueur qui surperforme en équipe de France. Il n'avait pas forcément un niveau exceptionnel, mais à chaque fois qu'il allait en bleu, Mathieu Valbuena, il était très très bon. Et donc, depuis, il n'est jamais revenu. On sait que l'histoire...
Est théoriquement la victime de cette histoire.
Et on connaît la suite de l'histoire. Benzema, lui, est revenu. Moi, je ne comprenais pas pourquoi un joueur qui avait une affaire privée qui mettait pas en cause le maillot tricolore, même s'il y a une partie de l'histoire qui se déroule
à
Clairefontaine.
Effectivement.
Mais vous voyez, il y a d'autres joueurs, par exemple, qui sont condamnés pour violence conjugale, ce qui me semble beaucoup plus grave, et qui continuent à porter le maillot d'équipe de France.
Lucas Hernandez.
Et il y en a d'autres.
Kurzawa.
Il y en a eu d'autres. Mm-hmm. Et donc ça me dérange beaucoup plus. Parce que pour moi, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on reprend des valeurs de partage, d'amitié, de fraternité, et on tape pas sa femme, par exemple. Et en revanche, avoir des comportements délictueux qui relèvent du chantage ou de la tentative de chantage, ou ça c'est pas que ça me paraît pas grave.
Complicité.
Pour Benzema, c'est ça qui me paraît pas être en. C'est une affaire privée. Un peu sordide, un peu cracra, pas terrible, pas digne d'un joueur du Real Madrid.
Difficile à comprendre parce qu'il y a eu un déballage.
Lui, il arrive au troisième rideau,
Benzema,
parce qu'il y a d'abord d'autres personnes. Donc c'est pour ça
on a l'impression.
Mais si la responsabilité elle est avérée, on verra. Mais sa place dans l'histoire, elle reste mineure dans une affaire judiciaire. Ce qui ne veut pas dire.
Oui, parce qu'il y a quatre personnes qui là sont accusées directement.
C'est pas le maître chanteur, quoi.
Voilà, c'est pas lui qui a voulu racketter de l'argent pour faire simple, quoi. Voilà.
Non, lui, il a voulu faire le gentil, plus ou moins.
Faire l'intermédiaire.
Alors, si c'est vrai, parce que, enfin, de toute façon, il y a de la justice et il faut laisser faire son travail. Lui, moi, je le comprends comme ça. Si c'est ça, il a voulu rendre service sans se rendre compte que c'était sous le coup de la loi.
Un joueur du Real Madrid ne devrait pas faire ça, en fait. Ne devrait même pas se mêler de ce genre d'histoire.
Ça lui a coûté cher, quand même.
On voit pas Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo à l'époque se mêler de ce genre d'histoire.
Yoro, vous qui avez un regard, peut-être avec un peu plus de recul sur ça, on parlait de Lucas Hernandez qui s'est présenté à la justice hier en Espagne, justement. L'histoire, elle est compliquée parce que c'est des violences conjugales, certes, mais avec une femme avec qui, finalement, il s'est marié. Voyage. Avec qui il a un enfant, donc
la condamné. Hein.
Bien sûr, mais il l'a pas condamné. Julien,
vous allez voir qu'il va revenir en équipe de France s'il est pas en prison, et ça passera comme une lettre à la poste.
En tout cas, il joue ce soir théoriquement avec le Bayern. Bon, alors on a une histoire beaucoup plus horrible, c'est celle de Benjamin Mendy. Lui, il est en prison et accusé de viol, du côté de Manchester. Est-ce que ça peut salir certains joueurs, et par exemple Karim Benzema, ou finalement sa rédemption un peu en bleu et son incroyable talent avec le Real permet de...
Moi, je pense que ça peut pas salir Karim Benzema. Et puis, mentalement, c'est un joueur très fort. Donc, ça peut pas l'atteindre. Il a traversé, il a vu pire d'être écarté de la sorte. Oui. Tu perds la Coupe du Monde, etc.
Il a déjà payé, on a l'impression.
Ce que ça devait. Mais moi, je suis d'accord
au-delà
avec
de ce que dira la justice, d'ailleurs, peut-être.
Il a déjà payé, parce que c'est quand même six années de perdu en équipe de France. Il pouvait battre tous les records, gagner la Coupe du Monde, etc. Est-ce qu'il va la gagner dans un an? On ne sait pas. Donc, et je suis sûr, s'il était là en 2018, il l'aurait soulevé. Donc, il a déjà payé pour moi.
Franchement, sa responsabilité, elle est minime. Exactement. Encore une fois, c'est pas bien. Il a pas à se mêler de ce genre de trucs.
Bon, déjà, on va attendre de voir ce que dit la justice.
Voilà, c'est peut-être qu'il sera
acquitté, relaxé, etc.
Mais même s'il est impliqué, parce qu'on saura jamais, il y a un verdict, comme le dit Nabil, mais bon, on connaîtra jamais on sait jamais. Sa responsabilité, elle est pas dingue, même s'il faut pas tremper dans ce genre d'histoire, quoi. Encore une fois, il a pas.
Non, mais il a rien à
dire. Nabil, est-ce que Mathieu Valbuena, finalement, en étant victime, de toute façon, dans cette histoire, il n'est pas aussi victime dans tout ça, parce que, alors certes, il n'était pas du tout sur la même dynamique au point de vue de sa carrière.
Mais
maintenant, il
dépassé,
joue à Moscou. Mais on a l'impression que lui, par contre,
je crois qu'il l'a dit dans ses déclarations.
Il a été dépassé moralement aussi.
Ouais, je crois qu'il l'a un peu dit dans ses déclarations. S'il avait su que Benzema était déjà impliqué même à un niveau mineur ou annexe, il n'aurait pas porté plainte. Donc je pense qu'il a été dépassé par tout ça, Mathieu.
Oui, Mathieu dit, on n'a pas à être victime d'un chantage de gens qui veulent.
Non, mais évidemment.
Parce qu'il trouve quelque chose dans votre téléphone et qu'il veut vous faire payer. Quoi. Évidemment. Donc, il a bien fait de porter plainte quand même. On ne peut pas lui reprocher ça.
Évidemment, mais
il ne peut pas se reprocher.
Après, non, mais lui, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a dit. Il a dit si j'avais su que. C'est vrai que ça a pris des proportions. Bah, c'est une affaire sociétale, nationale, récupérée également par des politiques.
Politique, on s'en souvient à l'époque.
Ça, il faut absolument pas l'oublier. Mais moi, je suis d'accord avec vous sur Valbuena. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup aussi dans cette histoire. Moralement, ça n'a pas dû être simple pour lui.
Pour lui, c'est important.
Et le milieu du foot, il est difficile. Tu le sais très bien, Dominique. Il peut être vu comme celui, finalement, j'aime pas ce mot-là, mais socialement, tu peux être vite
moins. Qui a payé entre Glasman et Tapie sur la corruption de Valenciennes-Marseille en 93? Qui a payé, à votre avis? Tout le monde le sait, Glasman n'est plus rien. Donc, et Tapie, il vient d'être enterré en héros.
Il y avait parfois une forme de loi du silence, surtout dans ce genre d'histoire. Vous savez, les histoires de sextape dans le football, c'est quelque chose qui est assez fréquent.
De la part de maître chanteur.
Voilà, exactement. Et écoutez, on verra.
On verra, mais nous, on va s'intéresser à la Ligue des Champions tout à l'heure et on se retrouvera à partir de 21h10 en temps universel. Et avant, il y aura nos camarades du service des sports un peu partout à partir de 19h temps universel.